Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 64e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors cette semaine est une semaine de récupération pour moi après avoir enchaîné deux courses en l'espace d'une semaine. La première était une course en compétition, la seconde n'en était pas vraiment une. Il s'agissait d'un run 2 km organisé par la FFA et qui m'a servi de test, on va dire, pour la VMA. Je me rappelle dans l'épisode enregistré avec Jonas de Sport Testing, il indiquait la pertinence de réaliser un test de ce genre tous les 3 mois. Alors ces 5 tours de piste valident les belles séances réalisées durant l'été et une forme relativement bonne actuellement. Alors je l'ai un peu payé dans les jours qui ont suivi, vous voyez le week-end qui a suivi, les ischios étaient encore bien durs. Cela ne veut pas dire que j'ai complètement lâché les baskets, j'ai simplement réduit l'intensité en me contentant de footing et d'un peu de renforcement musculaire. Alors, ce week-end qui s'annonce va encore être l'occasion pour bon nombre d'entre vous de prendre part à des courses et à vous élancer sur les lignes de départ. Alors, entre les week-end chocs réalisés par certains, clin d'œil à Stéphane dans sa dernière ligne droite dans le cadre de la préparation pour la Diagonale des Fous, pour d'autres, ce sera un premier dossard. Bon courage en l'occurrence à Geoffrey dans le cadre de son premier marathon et à toutes celles et ceux qui donneront le meilleur d'eux-mêmes une fois le chrono lancé. Alors je vous attends sur les réseaux pour en discuter, vous les connaissez, Facebook et Instagram, @ à côté de mes pompes. Et si vous écoutez le podcast, identifiez-moi dans vos stories, dans vos publications, sans oublier, car je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast via la plateforme Apple, laissez-moi une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire. Dans l'épisode du jour, c'est une marque que je reçois par l'intermédiaire de son créateur Flavien. J'ai été interpellé par cette jeune entreprise au doux nom de Beaumollet, car je dois l'avouer, s'il y a bien une partie de mon corps que j'affectionne, ce sont bien mes mollets. Alors, trêve de plaisanterie, à l'heure où l'enjeu écologique est au cœur de nos sociétés, les engagements de cette jeune marque Beaumollet visent à offrir aux runners des vêtements techniques d'une grande qualité, co-construits où le consommateur a pu donner son avis durant tout le processus de réalisation. Et cerise sur le gâteau avec une empreinte sur les ressources naturelles quasi nulle. Les matériaux qui composent en effet les t-shirts Beaumollet et prochainement les shorts et les chaussettes sont issus de bouteilles en plastique recyclé. Et donc Made in France, une initiative faisant suite au voyage en Indonésie de Flavien qui s'est transformé en une véritable prise de conscience. Voilà comment est née cette jeune marque de textile dédiée aux coureurs à pied. Je vous laisse donc en compagnie de Flavien Touroude, cofondateur de la marque Beaumollet, pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle écoute à vous. Bonjour Flavien, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler running bien évidemment, mais également textile avec un côté éco-responsable puisque tu es le cofondateur d'une jeune marque française, hein, Cocorico, le Made in France se développe de plus en plus, marque qui s'appelle Beaumollet. Alors je vais te laisser déjà te présenter et puis on va ensuite voir comment est née cette marque et quelles sont les coulisses.
Salut Seb, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et donc pour me présenter, je m'appelle Flavien, j'ai 24 ans et donc je suis passionné de course à pied depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé un peu comme tout le monde, un peu par hasard avec une envie de m'aérer l'esprit et de fil en aiguille l'envie de me challenger, de découvrir ce que c'était les courses officielles avec un premier 10 km sur Toulouse et l'envie au fur et à mesure de me challenger, de découvrir d'autres sensations à travers la course à pied, que ce soit en ville ou à la campagne. Voilà, je suis originaire de Normandie. Je sors fraîchement de l'école. Ça fait un an et demi, je crois, que je suis diplômé. Donc, pas vraiment d'expérience professionnelle à la base, mais une envie à chaque fois de toucher à plein de choses dans l'associatif, au niveau du sport aussi, avec les amis, et également au niveau professionnel. Une culture assez large de ce que peuvent faire les marques aujourd'hui. J'ai une grande passion pour les marques et ce qu'elles peuvent faire, l'impact qu'elles peuvent avoir aujourd'hui sur notre monde. Et il y a eu cette volonté avec un copain d'école, Nathan, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale à impact. Et c'est sûrement ce pourquoi je m'adresse à toi aujourd'hui, en tout cas.
Alors, tu dis être fraîchement diplômé. De quelle école sors-tu et quel a été ton parcours, on va dire, scolaire?
Ouais, pour le parcours scolaire, j'ai un parcours, on va dire, assez atypique parce que j'ai fait une école de commerce, mais à la base, j'ai fait un baccalauréat technologique, un baccalauréat qui ne nous prédestine pas a priori à des écoles de commerce. Et par chance, j'ai eu des profs qui m'ont un peu poussé dans une direction, une filière qui était très intéressante, qui nous permettait de faire une petite passerelle vers le monde du commerce. Et c'est là que j'ai pu, entre guillemets, faire mes armes, découvrir un univers très très large de la finance, du marketing, du management, et découvrir en fait tout un univers assez large pour monter une entreprise notamment.
Alors, par rapport à ce parcours scolaire, est-ce qu'au niveau sportif, tu pratiquais un sport avant d'avoir découvert, avoir cette révélation pour la course à pied il y a 5 ans?
Ouais, j'ai fait plein de sports dans ma jeunesse. J'ai commencé par le judo, donc rien à voir avec a priori les sports d'endurance en tant que tel. Bon, je veux pas forcément m'adresser au judoka, mais voilà, c'est encore différent. J'ai fait rapidement après des sports collectifs, du football, du basketball. Et c'est vrai que c'est il y a 5-6 ans en fait quand je suis arrivé sur Toulouse, que j'ai eu un besoin en fait de me retrouver, et que c'est à ce moment-là en tout cas que j'ai commencé la course à pied. En fait, je suis où j'ai commencé par une séance par semaine, comme beaucoup de personnes, avec 5-6 km, et puis j'ai commencé à doubler, à tripler et à allonger les distances.
Alors, qu'est-ce que tu as ressenti lors de tes premières séances de running? Tu t'es dit ça, c'est un sport qui déjà me permet de le pratiquer quand je veux, où je veux. Un simple t-shirt, on va dire, on verra que tout à l'heure, c'était quelque chose d'important quand même, hein, le t-shirt et le textile. Mais voilà, quelles ont été tes premières impressions et la première course, ça a donné quoi sur Toulouse?
Ah, au début, je pense, comme beaucoup de gens, tu trouves ça ingrat. Tu te dis, mais dans quoi je m'embarque? Tu le fais parce que tu te dis, bon, il paraît que c'est bon de courir, hein, c'est un peu comme ça, mais pas forcément d'études scientifiques ou qui te permettent d'appuyer ce fait-là. Mais tu te dis, je vais le faire. Et je sais pas, il y a eu un moment en fait où j'en ai eu plus besoin. Un moment en fait où finalement j'avais pas trop confiance en moi, où ouais, j'étais pas mal dans le doute. Et le fait de courir et d'être vraiment d'oublier un peu les sports co et de revenir sur moi, je trouvais l'approche très intéressante parce qu'il y avait une réflexion, un côté développement perso où je courais pour moi, et en fait il n'y avait pas de chrono, il n'y avait pas encore de montre, il n'y avait pas de Strava à ce moment-là, et déjà il y avait du plaisir, et il y avait un moment où tu commences à faire 6 km, 7 km, tu commences à être fier de toi pour, entre guillemets, pas grand-chose, et tu te rends compte qu'il y a des sentiments de satisfaction qui se développent, et c'est comme ça que tu tombes un peu dans la marmite.
Tu as basculé après quand même, voilà, sur des courses officielles. Tu as été piqué par ce virus des compétitions quand même.
Ouais, exactement. Après, avec modération, mais c'est clair que j'ai voulu voir ce que c'était une ambiance de course, parce que quand tu te balades un dimanche matin et qu'il y a une course pas loin de chez toi, tu te rends compte qu'il y a une vraie ferveur, et j'ai voulu un petit peu tester ça, mais de l'autre côté de la barrière, en n'étant pas un spectateur et en étant plutôt un coureur. Et premier 10K, j'avais pas encore couru de 10 km officiels, et ouais, je suis complètement tombé fan de cette ambiance, de l'adrénaline que tu peux avoir au moment où le top départ est lancé, et voilà, une belle première course, un beau premier 10 km, et la sensation de m'être dépassé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, la sensation d'après-course où tu es sur un nuage, ou sur un moment assez indescriptible, tu es dans le flottement, dans le flow, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une sensation qui est très agréable.
Bon, alors quelques années se sont passées depuis, tu es sorti donc de l'école, et là est né le projet de créer une marque, toi qui disais tout à l'heure être fan des marques et de ce qu'elles pouvaient véhiculer à travers la société. Comment est né ce projet? Parce que là, on est encore à la sortie de l'école et on est dans un projet naissant.
Ouais, à ce moment-là, l'envie juste de m'investir dans un projet qui compte, mais je savais pas trop comment m'y prendre en fait. Et dans le cadre de l'école, en fait, on a l'opportunité de faire ce qu'on appelle une année de césure. C'est une année où tu pars à l'étranger, où tu pars faire autre chose. Donc pour beaucoup, on part dans des stages à l'étranger, en France, dans la capitale, enfin peu importe. Et avec Nathan, donc mon pote d'école, on a décidé de faire les choses autrement. On avait envie de s'investir dans de l'humanitaire, Et on trouvait que c'était le bon moment de le faire parce que pas vraiment d'excuse pour ne pas le faire. Parce qu'une fois que tu travailles, forcément, tu te dis que tu n'as pas le temps de partir 6 mois dans un pays à l'étranger. Avant, tu n'as pas forcément l'âge ou la maturité ou la confiance pour le faire. Et là, on a senti que c'était le bon moment. Donc, on est parti en fait aux Philippines. Entre 3 et 6 mois, 3 pour Nathan et 6 mois pour moi, au sein de l'ONG Gawad Kalinga, qui est une ONG qui œuvre contre la, enfin qui souhaite éradiquer la pauvreté aux Philippines et donner des conditions de vie décentes à l'ensemble de la population.
Alors, qu'est-ce qui t'a marqué sur place? Parce que 6 mois, c'est quand même relativement long, hein, loin de son pays, ça doit être dépaysant. Et puis, peut-être une prise de conscience qui s'est opérée en toi par rapport à ces problématiques liées à la pauvreté.
Ouais, des paysans sur plein d'aspects. Hein. Le plus classique serait de dire au niveau de la météo, de la géographie, clairement. Mais même là-bas, en termes d'état d'esprit, tu te rends compte que ouais, on a une culture occidentale qui est bien différente d'autres pays. Et quand tu n'as pas forcément voyagé comme moi à l'origine, c'est vrai que c'est un peu dur à imaginer. Et là, tu arrives dans un univers où clairement les codes ne sont pas les mêmes. On a été projeté dans des communautés, et c'est là où l'aventure a été magique, c'est qu'on vivait au sein même des communautés. On n'était pas dans la capitale ou à Manille ou dans les hôtels, on était vraiment avec les communautés, et ça c'était super chouette. Et du coup, forcément, tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui est remis en question sur la manière de vivre, sur les choses que tu considérais comme acquises, à savoir l'eau potable, l'eau chaude, tout ce qu'on pourrait considérer comme le confort, l'isolation des bâtiments. Bon, là-bas, il fait très chaud, donc ça pose pas forcément de problème sur l'isolation. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont redistribuées. Et les deux points qui nous ont énormément marqués, c'est la pollution plastique dans un premier temps. Le traitement du plastique là-bas est un vrai fléau, bien plus présent encore qu'en France. Et le second, c'est les conditions de travail qui sont bien plus... Je vais pas dire compliqué parce que c'est encore un autre univers, mais qui sont bien différentes de ce qu'on peut connaître là-bas. C'est beaucoup d'heures de travail, des heures qui excèdent, en tout cas les 35 heures, une rémunération qui n'est pas juste, la sécurité de l'emploi qui est inexistante. Et pourtant, malgré tout ça, une joie de vivre de la part des gens avec qui on a passé du temps. Et ça a été très marquant aussi pour nous, humainement, d'avoir vécu au sein même de ces familles.
Alors après cette année de césure, ces 6 mois passés aux Philippines, bah qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes rentré? Dans quel état d'esprit tu étais avec Nathan pour développer finalement quelque chose en France? Je crois que c'est une pétition qui a été l'amorce de votre projet Beaumolet.
Ouais, tout à fait. En fait, on a été pas mal déboussolés par cette initiative, et à la fois touchés parce que ouais, on s'est vraiment senti utile en fait pour la première fois. Et ouais, pour la première fois, je me suis dit waouh, en fait, ce que j'ai envie c'est d'avoir de l'impact. Et avec Nathan, on était carrément alignés sur ces valeurs là. On a été aussi très touchés, donc comme je te l'ai dit, par la pollution plastique, parce que là-bas c'est bien différent. Enfin, on n'a pas forcément le même traitement de déchets, on n'a pas la poubelle jaune qui avec les camions de poubelle qui viennent régulièrement, on n'hésite pas à brûler par manque de choix, hein, par l'absence de choix, à jeter dans les rivières notamment. Enfin, donc il y a pas mal de choses qui sont choquantes là-dessus, et enfin on a essayé de le tourner comme, enfin de le prendre comme une motivation. Et il se trouve que là-bas aux Philippines, j'ai pu en fait travailler dans une entreprise sociale qui fabriquait des peluches. Donc une première découverte de l'industrie textile. Donc c'était quelque chose qui était très vertueux parce que c'était une entreprise sociale et que chaque vente de peluche était un bénéfice potentiel pour les titas de la communauté de GK, là où j'ai vécu 6 mois. Et on s'est demandé comment on pouvait avoir un impact sur cette industrie textile qui est souvent pointée du doigt. Et il se trouve que pour nous le problème le plus important qu'on pouvait pointer du doigt, en tout cas avec une multitude de coureurs et de consommateurs ici en France, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Et ça a été le point de départ en fait de toute la réflexion derrière, de lancer une pétition pour demander en tout cas au pouvoir public et aux marques d'avoir un peu plus de transparence sur notamment sur leurs conditions de fabrication, avec la mise en application d'un social score, qui serait un score inspiré du Nutri-Score sur les aliments, mais qui permettrait en fait à chacun, directement en regardant l'étiquette de ton vêtement, de savoir si ton vêtement il a été fabriqué dans de bonnes conditions ou de moins bonnes, mais en tout cas d'être responsable dans ton acte d'achat et te dire bah voilà, je sais ce que j'achète en tout cas.
Alors il est vrai que si on regarde les étiquettes sur nos t-shirts, on va avoir du Made in China, Made in Thaïlande, Made in Indonésie. C'était très présent. Enfin, tu as visité justement des usines qui, en dehors des peluches, mais tu as été au contact de personnes qui travaillaient dans ces industries textiles et ça a généré finalement en toi cette envie de peut-être rapatrier un peu vers l'Europe les lieux de production. C'était aussi ça le projet Beaumolé à sa genèse.
Dans l'ensemble, après, je n'ai pas visité de d'usines aux Philippines, notamment, enfin des usines en dehors de l'usine de Plush & Play, l'entreprise dans laquelle j'ai pu passer du temps. Cela dit, j'ai pu passer du temps, notamment au niveau de, enfin, je fabriquais pas directement, mais je travaillais à l'élaboration, pardon, des peluches. Et donc, je faisais ce qu'on appelle du sourcing de matière et j'allais dans les marchés. Mais pour le coup, c'était comme un marché, le marché du dimanche, sauf que là, c'était un marché du textile. Et c'est là où, par contre, j'ai pu voir en fait des centaines et des centaines, enfin des milliers de personnes qui travaillaient dans ces entreprises-là. Et forcément, en fait, avec tout ce qu'on entend à droite, à gauche, on disait que c'était en tout cas un bon moyen de rendre une industrie un peu plus juste et plus responsable.
Alors cette pétition, quelles ouvertures, quelles perspectives elle vous a donné? Parce que d'une pétition, basculer sur une marque, il y a quand même un petit pas à franchir. Vous avez dû cheminer quand même un petit peu pour avancer. Quelles conclusions vous avez pu tirer de cette grande campagne, de cette pétition qui avait été lancée?
Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes qui se sont passées. En vrai, au début, on s'était dit que la pétition, c'était le moyen d'avoir le plus d'impact sur les autres, dans la mesure où, en fait, si c'est quelque chose qui, on va dire, émane de des consommateurs, on a moyen de faire bouger les choses et c'est comme ça qu'on voyait les choses. Et donc on a lancé cette pétition et en l'espace d'un mois, et c'est ce qui a forcément amené à avoir d'autres réflexions, on a eu 30 000 signatures. Et ces 30 000 signatures en fait nous ont montré qu'avec peu de moyens, parce qu'on n'a pas fait c'est vraiment du bouche à oreille et le côté un peu viral qui a fait qu'on a obtenu ces 30 000 signatures, on s'est dit waouh, en fait si des gens qui ne nous connaissent pas ont partagé la pétition et l'ont signée, c'est que vraiment il y a un truc sur la transparence. C'est qu'il y a vraiment une volonté de, au-delà de dire on consomme mieux, déjà de savoir ce qu'on consomme, parce que finalement savoir ce qu'on consomme, c'est la première étape pour pouvoir mieux consommer. Et on a eu en fait des discussions avec des pouvoirs publics, notamment une personne donc de l'Assemblée nationale. On a eu aussi des discussions avec des marques, avec des acteurs en tout cas de l'industrie textile, des acteurs de la mode durable aussi. Et ça a été très riche parce que on a découvert une industrie qui était très complexe. C'est vrai qu'on avait une vision très globale au final, et c'est là où on a compris les problématiques, les enjeux des cabinets de conseil, des marques, des plateformes qui nous ont en fait toutes donné un maximum d'insights, de conseils en fait sur notre initiative qui a été saluée certes, mais qui au final a été aussi un peu découragée parce que difficile à mettre en application.
C'est ce que j'allais te demander, parce que de là à vouloir créer, je pense que voilà, tu as cette envie d'entreprendre, d'aller peut-être changer à ta façon un petit peu cette vision que l'on peut avoir du running et du textile qui s'y greffe, mais faire une place sur un marché qui est déjà très concurrentiel avec de nombreuses marques présentes, il y a de quoi être découragé. Enfin, c'est un peu une montagne qui se dresse devant vous. Comment vous avez pu justement vous remobiliser et puis quand même avancer et malgré ces peut-être tentatives de découragement de la part de certains, bah vous faire une place et monter et avancer dans votre projet?
Non, ce qu'on s'est dit, c'était qu'à la base, on souhaitait et on souhaite avant tout avoir de l'impact en fait. Et forcément, la pétition, ça n'a pas marché et on s'est dit qu'un autre moyen, au-delà du côté très législatif, d'avoir de l'impact, c'est de mener un mouvement en tant que tel. Et on s'est dit que lancer une marque à impact, ça pouvait être un bon moyen en tout cas de créer un mouvement, parce que forcément, si ce mouvement prend l'ampleur, ce mouvement de coureurs engagés prend l'ampleur, mais on s'est dit que ça forcerait entre guillemets les gros mammouths à accélérer le changement.
c'était une opportunité, le fait d'être passionné de course à pied et de dire finalement, c'est peut-être des gens qui vont être en lien avec avec l'écologie, avec la nature, le monde des coureurs est peut-être plus sensible qu'un autre groupe finalement dans la société. Donc, tu t'es servi de ta passion pour peut-être transmettre ce message et te faufiler dans cette brèche pour développer cette marque.
Après, en fait, on s'est posé la question de quelle marque on a envie de créer. Et il se trouve que alors on n'est pas forcément des férus de la mode. En revanche, on est des férus de course à pied. On court tout le temps. Et pour le coup, ça nous paraissait important aussi de pouvoir s'investir dans un univers qui nous plaît et qui nous fait vibrer. Monter une marque dans le running, c'était le bon compromis pour mêler la passion et l'impact.
Alors, ce nom de Beaumolet, parce que pour l'instant, vous ne proposez pas de chaussettes. Ce sont vraiment les t-shirts qui ont été votre premier produit et il est sorti aujourd'hui. Ça vient d'où et quel est le message de ce Beaumolet, justement?
Ouais, donc du coup, avec Nathan, on s'est dit qu'on allait lancer une marque, Beaumolet, une marque de Made in France, qui fabrique des vêtements, en tout cas l'intégralité de ses vêtements en France à partir de matières recyclées. Et ça, c'était un peu le grand message, c'était d'essayer de monter la marque de running avec le moins d'impact sur la planète et le plus d'impact en tout cas sur tout un écosystème. Et donc, on a essayé de déconstruire toute la chaîne de valeur pour essayer de comprendre qui étaient les acteurs. Et on s'est rendu compte que si 90% des fringues qu'on achète viennent de l'autre bout de la planète, on a un savoir-faire ici en France. Et donc, on trouvait dommage en fait de pas s'appuyer sur ce savoir-faire français. Et on a voulu à tout prix donc s'appuyer sur ce savoir-faire et surtout faire en sorte que cette marque, elle respire cet ADN cocorico, comme tu disais en début de podcast. Et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver un nom qui corroborait en tout cas avec l'ADN et l'ambiance qu'on peut retrouver sur une course familiale avec les coureurs qui sont là pour la perf, d'autres pour s'aérer, d'autres pour le bien-être et qui sont là vraiment pour partager en tout cas le temps du matinée et de prendre du plaisir. Et je trouve que Beaumolet, ça respire le côté fabrication française et il y a un côté assez léger qui nous plaît bien.
Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, le fait de recentrer, de relocaliser la production sur du Made in France. Pour un t-shirt qui vient de l'autre bout de la planète, combien de kilomètres il aura parcouru avant d'arriver sur nos épaules?
On est parti du constat qu'un t-shirt, ça parcourt, un t-shirt en coton, mais même un t-shirt en polyester, ça parcourt 40 000 kilomètres avant d'arriver sur nos épaules.
Un tour de planète.
Un tour de planète.
Donc, c'est quand même énorme. Et là, vous, quand vous êtes penché sur cette ligne de production, ces circuits courts, vous descendez ce chiffre à combien? Parce que c'est assez significatif quand même.
Oui, tout à fait. En fait, en déconstruisant toute la chaîne de valeur, on a permis de comprendre en fait qui étaient les acteurs qui pouvaient nous aider à fabriquer un t-shirt de toutes pièces, de partir de zéro, du design, du fil, du recyclage de la bouteille, jusqu'à ton produit final. Et en fait, on s'est rendu compte que à côté de chez nous, on est basé à Lyon. En fait, il y avait une multitude d'acteurs, que ce soit des tricoteurs, des filatures et même des confectionneurs. Et donc, en fait, on a réussi à faire en sorte que de l'extraction de ta matière première jusqu'à la livraison de ton produit final, ton t-shirt parcourt 2500 kilomètres.
Oui, donc on réduit drastiquement donc la distance parcourue par le t-shirt avec, tu le disais, Flavien, exclusivement ou pratiquement exclusivement des matières recyclées. Alors, comment on part concrètement d'une matière recyclée à un t-shirt made in France?
Alors, c'est très simple. On part donc de bouteilles qui à usage unique, a priori, qui vont être en fait récupérées dans la région du Piémont en Italie, à 300 km d'ici. Ces bouteilles, elles vont être donc collectées, triées, nettoyées. Puis, elles vont passer dans un processus mécanique qui vont en fait transformer ces bouteilles plastiques en petits copeaux plastiques qui vont être ensuite fondus. Et cette pâte, si tu veux, elle va être ensuite, on va dire, filtrée en fil de textile, fil de polyester recyclé, textile. Et ensuite, on reprend, si tu veux, à partir de cette grande étape de recyclage de la bouteille plastique, un processus classique pour l'industrie textile avec... On passe d'une bobine de fil à un tricotage d'une maille. Et cette maille, ensuite, elle va être envoyée dans notre atelier de confection qui va venir poser les patrons et découper le t-shirt sur cette maille, sur ce tissu.
Alors, je connaissais pour les stylos, des stylos qui étaient réalisés en bouteilles recyclées. Là, pour un t-shirt, combien concrètement il faut de bouteilles?
Alors, je n'ai pas le chiffre sur le stylo, mais en tout cas, pour le t-shirt, on compte entre 12 et 13 bouteilles plastiques.
D'accord, donc ça reste quand même raisonnable en termes de quantité, au vu du nombre de déchets que l'on peut collecter et que l'on peut mettre chaque semaine dans nos poubelles jaunes.
Ouais, tout à fait. Et puis le plus important, ça reste de penser qu'en fait, on puise notre matière dans des déchets, dans des choses déjà, dans des matières déjà existantes. Et donc, c'est pas parfait parce que forcément, dès qu'on produit, on pollue, mais en fait, l'impact, il est bien moindre sur la planète. À titre de comparaison, l'utilisation d'une fibre recyclée, elle permet d'économiser 94% d'eau par rapport à une fibre vierge, notamment de polyester. Mais là-dessus, tu as des économies qui sont énormes sur chacun des postes en termes d'économie de matière, notamment, ou d'émissions de CO2.
C'est ce que j'allais te demander. Comment vous avez pu construire sans avoir finalement une grosse expérience? Tu le disais tout à l'heure, hein, on sortait tout juste de l'école, mais il y a cette grosse motivation et cette prise de conscience après votre voyage aux Philippines. Mais comment vous avez pu aller frapper aux portes des manufactures, des industriels pour leur dire, voilà, on est deux jeunes, on souhaite lancer une marque éco-responsable Made in France. Est-ce que vous pouvez nous aider? Quel a été l'accueil de ces industriels et de ces professionnels du textile qui ont peut-être l'habitude de travailler avec des marques beaucoup plus importantes que deux petits jeunes qui arrivent fraîchement sortis de l'école?
Ah, on est venu avec un beau projet de monter une marque la plus responsable possible sur l'industrie du running. Et il faut savoir que voilà, forcément, le running concerne une grande quantité de coureurs, en tout cas en France. On évalue entre 9 et 13 et 14 millions, en tout cas, le nombre de coureurs en France. Donc forcément, quand on a pu mener en fait une étude auprès des coureurs et qu'on est venu avec des éléments de réponse, des pistes à améliorer sur les vêtements qu'on trouve aujourd'hui, ça a forcément intéressé ces professionnels, ces industriels français, puisque je l'ai pas précisé, mais en fait avant même de se lancer, nous on a tenu en fait à toujours mettre au cœur du développement de la marque les coureurs et leurs attentes, leurs besoins, pour être sûr de cerner vraiment toutes les choses qui sont vraiment attendues. Et en fait, on a mené une étude auprès de 1120 personnes avant même de se lancer. Et cette étude auprès de 1120 personnes, elle a permis de confirmer certaines attentes qu'on avait de la part d'une marque de running, à savoir les attentes techniques notamment, mais aussi l'émergence de nouvelles attentes, des attentes éco-responsables sur lesquelles il y a une absence en tout cas d'offres à l'heure actuelle sur le marché. Et c'est ce qui a fait que forcément, ils étaient beaucoup plus sensibles aussi peut-être à la démarche et qu'au-delà de l'ADN de la marque et des choses qu'on souhaitait faire et des projets à long terme, il y avait aussi cette envie de répondre à un besoin.
Et ce besoin alors, qu'est-ce qu'on attend d'un t-shirt aujourd'hui quand on est coureur pour pratiquer son sport préféré? Quels ont été les enseignements que tu as pu tirer de cette première étude pour la matrice, on va dire, de votre t-shirt, le prototype, je dirais?
Cette étude, en gros, qu'on a menée auprès de 1120 personnes, elle nous a appris deux choses. Tout d'abord, donc, c'est l'importance des critères techniques d'un vêtement, notamment, ou d'un équipement, à savoir faire en sorte que ton équipement, il soit, qu'il évacue la transpiration, qu'il soit sans frottement et qu'il soit évidemment très léger pour pouvoir courir dans les meilleures conditions. Et il y a aussi donc cette émergence d'attentes éco-responsables avec la volonté d'avoir un maximum de transparence déjà sur les vêtements qu'on porte. Et ça va en fait, ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'on avait pu comprendre à travers la pétition. Et le second point, c'est la volonté d'avoir une confection qui soit la plus locale possible. Aujourd'hui, en fait, ça fait plus sens de parcourir 40 000 bornes avant d'arriver, enfin de voir un t-shirt arriver sur nos épaules. Donc, étant donné qu'on a un savoir-faire ici en France, on a jugé que le Made in France était une bonne réponse à cette volonté de local aujourd'hui.
Alors après, entre le souhait des coureurs et la bascule vers l'achat, il y a aussi là un cheminement à réaliser parce que les gens vont me dire « mais c'est peut-être plus cher, moi un t-shirt basique me convient ». Par quels moyens, quelle pédagogie vous arrivez à les convaincre que votre t-shirt est quand même… certes beaucoup plus durable, qu'il n'a pas parcouru 40 000 kilomètres. Quels sont vos leviers pour renverser un peu la tendance et dire à ses coureurs, ben certes, votre t-shirt, il a peut-être un prix qui est inférieur, mais vous allez peut-être le porter une fois, deux fois. Quels sont vos arguments pour les convaincre?
Le premier argument, c'est d'expliquer, c'est de donner un maximum d'informations, en tout cas sur notre démarche, sur tout ce qui est fait autour du t-shirt, tant sur la partie technique que sur la partie sociale et éco-responsable, et d'expliquer que forcément, essayer de faire les choses bien, ça implique un coût supérieur. Parce que forcément, quand on propose un t-shirt à 5 euros, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'équation qui a pas forcément eu une rétribution qui est la plus juste, je pense. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est d'essayer d'expliquer pour donner un maximum d'informations et expliquer qu'aujourd'hui, un prix juste, c'est pas forcément un prix à 5 euros. Ça, c'est le premier point. Le second point, il est de sensibiliser un maximum les coureurs au fait qu'aujourd'hui, c'est ultra important de répondre à un besoin et que s'ils ont besoin d'un t-shirt, c'est à ce moment-là que l'acte d'achat doit en fait se révéler. Et que c'est à ce moment-là aussi qu'ils doivent se poser la question de ce qu'ils veulent acheter. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a une responsabilité de la part des marques de proposer des bons produits, mais aussi de la part des consommateurs, d'une manière générale, eh bien, d'essayer de consommer mieux. Et cette volonté, elle a été confirmée dans l'étude. Il y a 96% des gens qui déclarent d'eux-mêmes, c'est du déclaratif, mais essayer de faire des petits gestes du quotidien pour réduire leur empreinte. Donc, maintenant, il faut que ça se retranscrive sur l'ensemble de toute la chaîne et de tous les éléments. C'est dur d'être parfait, mais en tout cas sur un maximum de nos modes de vie. Et derrière, c'est d'expliquer aussi que un t-shirt à 10 euros qu'on va porter une fois, c'est pas forcément une si bonne affaire que ça, et qu'un t-shirt que tu vas peut-être acheter 65 euros, si t'es sûr de le porter, qu'il va durer dans le temps, bah finalement il te revient pas si cher au fil du temps et au nombre de kilomètres parcourus sur tes épaules.
Alors effectivement, le coût est peut-être plus important, mais la durabilité va l'être également. Enfin, on voit des t-shirts qui, quand ils sont de premier prix, ne vont pas forcément tenir et ils finissent bien souvent au fond des placards. Et pour vider régulièrement mon stock de t-shirts ou tu vois ceux que tu peux avoir lors d'une course qui vont être offerts, finalement ces t-shirts-là, on ne les porte jamais. Ils finissent bien souvent soit à la poubelle, soit on les donne à des associations avec. On sait que derrière, ça va pouvoir être réutilisé, type le relais, mais au final, il aura fait 40 000 km, on ne l'aura peut-être jamais porté et il va finir soit brûlé, soit en textile pour garnir peut-être nos sièges de voiture. Donc, il n'y a pas une grosse utilité, effectivement. Alors, à partir du moment où là, vous étiez fixé sur le produit, vous aviez votre étude derrière, une communauté et pourras en parler, les réseaux sociaux vous ont aidé quand même à valider ce projet et à faire naître cette marque. Comment vous avez lancé la production, parce que les t-shirts Beaumolet existent maintenant, on peut fièrement les porter et vous avez donc réussi à financer ce projet. Donc, on n'est plus dans le virtuel, là vous les avez maintenant entre les mains, ces t-shirts.
Donc effectivement, on s'est lancé donc avec nos économies, en fait, avec 3 000 euros avec Nathan, on a fait une campagne de financement participatif sur Ulule. Et l'objectif donc de cette campagne, c'était de pouvoir vérifier donc qu'on répondait vraiment à un besoin et de pouvoir en tout cas présenter ce fameux t-shirt à la communauté. Et ce qui a été intéressant derrière cette campagne de précommande, c'est que ça nous a permis donc de rassembler en tout cas l'intégralité des précommandes avant même d'avoir l'intégralité des commandes avant même d'avoir lancé la production auprès de notre tricoteur et de notre confectionneur. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un avantage financier, puisque nos moyens étant très limités, ça nous permet de mieux gérer notre trésorerie derrière et de pouvoir lancer en tout cas cette aventure avec des moyens très limités.
Alors, sur le plan du mental, ça doit faire du bien aussi quand les commandes arrivent, les précommandes arrivent petit à petit, de se dire, j'ai déjà rempli mon objectif. Je sais que derrière, les consommateurs répondent positivement à ce nouveau t-shirt éco-responsable. Moralement, vous avez dû quand même passer du découragement dans un premier temps à là quand même, vous touchez du doigt et vous allez pouvoir concrétiser votre projet. Donc, une satisfaction qui doit vous animer tous les deux.
Ouais, on a été très satisfaits et très touchés aussi par le soutien apporté par les coureurs, puisqu'on a fait en fait 30 jours de précommande. Et ces 30 jours ont été marqués par un peu plus de 400 précommandes de coureurs. Donc forcément, ça donne en tout cas envie d'aller beaucoup plus loin dans la démarche et d'essayer d'avoir le maximum d'impact en tout cas sur les coureurs et de proposer des vraies alternatives, notamment au niveau des fringues.
Alors, quelles vont être ces autres alternatives? Vous développez d'autres produits? Vous voulez étoffer la gamme? Est-ce qu'il y a des t-shirts qui sont différenciants entre les hommes et les femmes, des couleurs, des motifs? Comment vous voyez les choses? Là, on est sur un premier t-shirt qui reste le modèle de base de la marque Beaumolet, mais quelles sont les perspectives?
Voilà, la perspective, elle est effectivement de pouvoir sortir une collection, un vestiaire complet. Donc, l'idée, elle est forcément de sortir des basiques dans un premier temps et de pouvoir, en tout cas, élargir après à d'autres produits.
Alors, ces autres produits, alors, une étude, hein, moi, je l'ai vu passer sur un groupe Garmin, ce sont les chaussettes. Alors, comment faire sa place également dans un milieu où on a déjà, je pense, pas mal de concurrence. C'est peut-être aussi concurrentiel que les t-shirts. Le textile en général va être très, très concurrentiel pour vous. Alors, comment vous allez à nouveau essayer de vous démarquer? En faisant appel de nouveau à des matières recyclées, à des personnes qui travaillent en local?
Ouais, dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est que l'intégralité de notre production, elle soit faite ici en France. Donc ça, c'est clair que c'est une condition sine qua non de chaque lancement de produit. Derrière, pour le cas, par exemple, de la paire de chaussettes, effectivement, ce qu'on veut, c'est être au plus proche de nos coureurs. Donc, ce qu'on va faire, et tu l'as un petit peu évoqué, c'est à chaque fois de faire ce qu'on appelle de la co-création. C'est-à-dire que chaque idée de produit, chaque idée est soumise en fait à une centaine de coureurs qui va nous dire si ça a du sens, en tout cas, de travailler sur ces produits-là. Et derrière, si ça a du sens, de savoir dans quelle mesure il faut prioriser tel ou tel aspect de technique de la chaussette, par exemple. Et notre étude, par exemple, sur la paire de chaussettes, donc elle est encore en cours, mais elle a permis de montrer quels étaient les points attendus, en tout cas de la part des coureurs en termes de design, en termes de hauteur, de points techniques, pointe de pied et compagnie, et qui nous permettent en tout cas d'arriver et de faire un vrai cahier des charges et d'arriver derrière auprès de notre tricoteur, en l'occurrence de chaussettes. Avec un vrai cahier des charges, en tout cas technique, qui est censé répondre en tout cas aux attentes des coureurs.
Alors, face à des mastodontes tels Decathlon, Odlo, Asics, Adidas, comment tu pourrais vendre ta petite marque et te démarquer? Parce qu'ils ont eux aussi un savoir-faire, des produits qui, pour certains, sont de qualité. Quels seraient, en dehors de l'éco-responsabilité, les arguments des produits Beaumolet? Il y a un message quand même derrière.
Bien sûr, et je pense que c'est indissociable de l'ADN de la marque, le côté confection, en fait. Aujourd'hui, on essaie de faire de proposer tout ce qu'on peut attendre, en tout cas, d'une bonne paire de chaussettes, d'un bon t-shirt, d'un bon short, tout en essayant de le faire bien, ou du mieux possible, en tout cas. Et ça, c'est un message, en tout cas, qui plaît énormément auprès de nos coureurs, de savoir que effectivement, ton t-shirt, il est fait à côté de chez toi. Il a été tricoté à Bourgoin, il a été confectionné à Rouen ou à Bobigny, et que en fait, tu sais que derrière, tu soutiens aussi un emploi et que tu vas pouvoir à la fois te remuer les mollets de la meilleure des manières de ton côté, prendre beaucoup de kiff, de plaisir, et de l'autre côté, savoir que ton acte d'achat a eu un impact positif sur tout un écosystème à côté de chez toi.
Est-ce que le Covid a un peu accélérer finalement la marque Beaumolet, parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises qui se sont dit finalement, plutôt que d'aller produire à l'autre bout de la planète, on a ce qu'il faut en France. Donc là, ça conforte quand même votre projet et peut-être un développement qui sera glorieux dans les prochaines années. Mais est-ce que cet épisode, donc cette pandémie mondiale, a pu avoir un effet positif sur le chemin que vous avez pris?
Alors, il a forcément eu un double impact. Le premier, on va peut-être parler de la mentalité, et c'est ce que tu évoques, c'est que oui, il y a la nécessité de se dire, la compréhension qu'on est très, très dépendant, en tout cas des pays asiatiques, dans son ensemble. Beaumolet, pas vraiment, mais pour la grande majorité des acteurs, clairement, quand il y a eu les frontières fermées, ou il y a eu pas mal de retard dans les livraisons, Et c'est pas que dans le textile que c'est arrivé. Il y a plein d'acteurs qui ont été frappés par le Covid négativement et qui se sont sentis en tout cas dépendants. Et cette dépendance, forcément, elle implique une réflexion sur nos modes de production, notamment, et de se dire que si on est dépendant, forcément, ça devient dangereux dans des contextes sanitaires, pour en tout cas dangereux d'un point de vue économique pour ces grands groupes, et qu'il y a peut-être une nécessité d'avoir une confection peut-être plus locale. Et la conséquence positive de tout ça, c'est que derrière, si la confection est un peu plus locale, il y a un impact pour la planète qui est peut-être moindre, et derrière, il y a aussi des conditions de travail qui vont être peut-être plus justes ou en tout cas plus respectueuses que ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. À côté de ça, au-delà des mentalités, il y a forcément eu un impact négatif aussi pour nous. C'est que derrière, il y a des ateliers, notre atelier de confection qui a été frappé par le Covid et qui a été identifié comme un cluster, plein d'entreprises et qui ont en fait été fermées ponctuellement. Mais tout ceci en fait a eu a impliqué un retard dans la production et dans la livraison de nos maillots. Donc, à ce niveau-là, c'est pas vraiment génial de fonctionner sous cette forme-là. Et j'ai envie de te dire, je préférerais que Beaumolet puisse se développer dans les meilleures conditions hors Covid, parce que forcément, il y a des choses qui sont pas géniales. Mais voilà, à côté de ça, en tout cas, c'est clair que ça nous conforte dans l'idée que fabriquer en France, ça a aussi du bon.
Alors, est-ce que vous êtes, entre guillemets, proche d'autres marques qui, elles aussi, prônent le Made in France? Alors là, je pense au magasin d'Antoine de Wild qui est à Nevers, la French Run, qui vient d'ouvrir un second store sur Paris. Et il y a d'autres marques, la marque Vitz en chaussures. Je crois qu'il y a Simalp également qui propose des lunettes. Et puis, tout ce pôle de jeunes entrepreneurs français, que ce soit Run Motion, que ce soit Nolio, Sport Testing, qui sont déjà passés sur le podcast, qui sont, comme toi, Flavien, avec ton camarade Nathan, de jeunes entrepreneurs et qui avaient envie, sur le territoire français, de montrer qu'il y a un savoir-faire, que ce soit technologique ou textile en ce qui vous concerne. Est-ce que vous avez des points d'accroche entre vous? Est-ce que ça fait naître peut-être une émulation et de se dire il y a des choses à faire ensemble pour contrecarrer derrière les grands groupes, les grosses marques? Peut-être qu'à plusieurs, vous allez être un petit peu plus fort et monter des choses ensemble.
Ouais, en vrai, il y a une vraie solidarité en fait entre tous ces porteurs de projets, tous ces entrepreneurs, et ça c'est vraiment génial. Tout à l'heure tu citais Run Motion, les frères Adam avec Guillaume et Romain qui tout de suite nous ont tendu la main en fait quand on les a contactés au moment de la précommande, avec les campagnes de financement participatif sur Ulule, alors qu'on n'était pas encore lancé et que ils ne nous connaissaient ni d'Eve ni d'Adam, et ils ont été OK pour nous soutenir. Et en fait, depuis, on échange régulièrement avec eux, et c'est génial en fait de pouvoir voir en fait tout cet écosystème d'entrepreneurs qui souhaitent en tout cas aller dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment trop trop chouette.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements, peut-être, qui seront organisés par Beaumolet? Je sais que tu organises des sorties running avec ce concept de plogging. Est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que c'est peut-être pas connu de tous les auditeurs, ce qu'est le plogging et d'où ça vient.
Ouais, avec plaisir. En gros, la mission qu'on a inscrite dans le marbre pour Beaumolet, c'est de donner envie aux gens de s'engager à travers la course à pied. Donc, on parlait beaucoup là finalement de fringues sur cette première partie du podcast, mais il y a d'autres manières aussi de s'engager, et c'est aussi en prenant ses mollets et en allant dehors pratiquer la course à pied. Et donc, en fait, il y a deux événements qu'on organise. Il y a l'éco-jog et le petit jog. Et donc, l'éco-jog, c'est cet événement un peu de plogging qui consiste à courir et ramasser des déchets. C'est des événements à impact, en fait, qu'on organise tous les premiers samedis du mois sur Lyon, pour le moment en tout cas. Et l'idée, c'est d'identifier une zone qu'on peut considérer comme polluée ou avec beaucoup, en tout cas, de déchets. Et avec un groupe de 20, 30, 40 coureurs, on va en fait organiser une collecte de ces déchets, un tri de ces déchets, et remettre en fait ces déchets triés aux équipes de la ville pour pouvoir forcément réinsérer ces déchets, et pourquoi pas en avoir des produits qui en auront un second usage, en tout cas une seconde vie.
Donc exclusivement sur Lyon, mais peut-être, on le sent hein, dans tes propos, une ambition de le développer sur d'autres agglomérations, parce que il suffit de se balader, comme tu le dis, en courant. C'est là où on voit le mieux les choses, hein, sur des chemins, sur des là, avec cette période de Covid, on voit des masques qui sont répandus partout dans nos chemins et sur nos terrains de course à pied. Donc, une envie peut-être de le déployer sur d'autres villes partout en France.
Écoute, ce serait génial. Ça demande pas mal d'orga parce que c'est des événements à impact où quand on fait une session, on est à minimum 150 kilos de déchets ramassés. La dernière, c'était 520 kilos, donc une demi-tonne. Donc clairement, ça demande pas mal d'orga et comme on n'est pas beaucoup chez Beaumolet, c'est encore compliqué. Et heureusement, on co-organise l'événement avec une asso locale Nettoyons Lyon qui est spécialisée dans ces événements-là et Square Champs, une autre boîte start-up à impact dans le sport. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc, en tout cas, ces événements à impact, si on peut les faire dans plusieurs villes, ce serait avec grand plaisir. Mais je pense que même à titre perso, on peut tous en fait avoir cet impact avec une activité de plugging encore plus accessible, inspirée de ce que peut faire très, très bien et prôner en tout cas très, très bien René Cotim avec Nicolas Lemonnier, un copain qui, bah, pareil, te dit que t'es pas obligé non plus de faire des gros rassemblements à 20-30 personnes pour pouvoir ramasser des déchets et tu peux très bien, lors de ta petite sortie dominicale, ramasser un petit déchet dans la rue et en fait, si tu fais un run, un déchet, bah, je fais un peu sa promo, mais forcément, en fait, ça permet de dépolluer aussi nos terrains de jeu et donc c'est aussi une manière à son niveau de pouvoir faire ce petit geste qui fait la différence.
Alors, pour ma part, moi, je l'ai organisé avec une classe, donc au lycée où je travaille, c'était au mois de septembre, et on était parti, puisqu'on est situé juste en bord de Loire, donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on a pris les quais, et on a fait peut-être un tour de 2 kilomètres dans la ville, et les élèves ont été surpris du nombre de déchets qu'ils ont pu ramasser, et le côté sympa, c'est que les anciens, les personnes, on va dire, du troisième âge, mais les retraités que l'on a pu croiser ont applaudi certains élèves, donc ils étaient fiers. Et bah, après, ils m'ont demandé à plusieurs reprises de retourner justement pour nettoyer cet environnement qui est agréable, mais qu'on ne doit pas forcément souiller. Donc, je te rejoins. Si à chaque fois que l'on sort, on peut ramasser un déchet, ça peut être déjà un premier pas et un premier geste.
Et c'est le genre de beau geste qu'on a envie de voir, je pense, encore plus dans les écoles. C'est trop bien.
Donc peut-être Beaumolet dans les écoles lyonnaises pour finalement transmettre et inculquer ces valeurs environnementales et sociétales.
Écoute, pourquoi pas? On n'a pas forcément ouvert cette porte-là, mais pourquoi pas?
Donc aujourd'hui, Flavien, vous êtes que deux à travailler chez Beaumolet ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'accompagnent? Parce que deux personnes pour faire tout ce que vous abattez comme travail, c'est peut-être un petit peu juste.
Ouais, c'est juste, on est bien occupé aujourd'hui, donc il y a forcément donc Nathan qui bosse à plein temps évidemment sur ce projet avec moi et heureusement. Et on a Louise aussi qui nous accompagne beaucoup. Louise qui est une styliste qui nous a accompagné en fait depuis le tout début du projet et qui nous a aidé en fait à passer de l'idée à l'action au niveau de la partie technique du produit, parce que forcément quand tu veux lancer un t-shirt et que tu pars de zéro comme nous. Et tu pars de tout, enfin, il faut tout reconstruire construire de toutes pièces et faire ce qu'on appelle une fiche technique avec une vraie réflexion sur les coutures, sur toute la construction du t-shirt, le colletage et compagnie. Et c'est ce qui fait que forcément, on a un t-shirt qui est différent de ce qu'on peut trouver même sur le marché, mais qui a demandé un vrai gros travail de la part de Louise, qui habite à Villeurbanne, donc à 5 minutes de chez nous. Et ça, c'est aussi le côté cool, la cerise sur le gâteau de cette histoire.
Et le choix de Lyon, c'est quelque chose de volontaire, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, hein, il y a la présence d'industries textiles, de personnes qui sont capables justement de vous accompagner dans la production. De Normandie, donc là où tu as grandi, Toulouse pour l'école, maintenant Lyon. Là, vous allez rester basé dans cette région Rhône-Alpes avec ce savoir-faire, hein, tu le disais tout à l'heure.
Ouais, c'est ultra important pour nous d'être au plus proche. D'un point de vue, on va parler purement pro. Ouais, c'est essentiel d'être au plus proche de nos partenaires. Aujourd'hui, tout ce qui va être la finition, on est à une demi-heure. Pour le tricotage, on est à une demi-heure à Bourgoin. Pareil, il y a Saint-Étienne pour une partie de la finition, il y a une partie, il y a Rouen. Donc globalement, on est dans un écosystème qui est vraiment très très vertueux, et on est à côté de nos partenaires qui sont vraiment là pour répondre présent. Et vraiment, ces derniers mois, on a eu vraiment besoin d'eux aussi pour nous aider à préparer le futur. Donc forcément, ça a un vrai avantage d'être au plus proche de ces ateliers. Donc ça facilite pas mal de choses. Après, à titre perso, je suis en coloc en fait avec Nathan. Donc c'est vrai qu'on mange, on dort, on bosse beau mollet H24, c'est clair. Mais c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir être dans cet environnement qui est très plaisant, qui respire le sport, et d'être au plus proche aussi de la nature, des montagnes. Et voilà, on fait une demi-heure de route et puis même pas, on est dans les Monts d'Or. Et c'est vraiment le côté aussi cadre de vie qui nous a attirés sur Lyon.
Alors, on n'en a pas parlé au préalable, hein, quand j'ai évoqué tes études et ton parcours. Tes parents, ta famille, comment ils ont accueilli ce projet? Parce qu'on souhaite, on va dire, le meilleur pour ses enfants, une situation stable, un emploi et bon, tu vois tout ce qui va avec. Là, le fait de te lancer dans l'aventure de l'entreprise, c'est pas totalement sécuritaire. Donc, comment ils l'ont vécu et comment ils l'appréhendent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une fierté de voir que ce petit projet, cette pétition issue d'un voyage aux Philippines est aujourd'hui concrète avec cette marque qui est naissante et qui va se développer au fil des années?
Écoute, j'espère que ça va se développer au fil des années, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce qui est vraiment génial, c'est d'avoir un environnement en tout cas bienveillant, et c'est ce qu'on a des deux côtés, aussi bien Nathan que moi. Vraiment, ils sont positifs, bienveillants, et ça, c'est vraiment très important, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement et de sacrifice aussi de pouvoir lancer un projet comme ça, même si ça nous plaît, ça nous passionne. C'est clair que ça laisse peu de temps pour des temps off pour soi, en tout cas. Donc c'est important en tout cas d'être rassuré sur ce point-là. Après, forcément, il y a toujours ces points de vigilance, parce que oui, quand on fait une école et qu'on peut voir les copains qui, même à titre perso, en fait, ça n'englobe pas que la vision que les parents peuvent avoir de nous, mais tu vois que les copains, ça y est, ont leur premier CDI et leur première paie, et toi, t'es trop jeune pour toucher des aides, en fait, et tu vis sur tes économies. Bon, il faut jongler, en tout cas. Donc c'est l'aventure entrepreneuriale dans toute sa splendeur, mais en tout cas, voilà, il y a juste la nécessité d'être assez fou pour continuer à rêver et à vivre cette aventure pleinement. Et en même temps, d'être suffisamment rationnel pour se dire, bon, par contre, il faut faire en sorte de ne pas être dans un monde de bisounours. C'est dur, hein, c'est pas évident, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme tâche tous les jours pour essayer d'avoir un maximum d'impact positif autour, pour baumoler et faire en sorte d'avancer à chaque fois.
Là, pour le moment, le t-shirt est disponible sur votre site internet, en précommande ou en vente. Qu'est-ce que vous envisagez comme développement? Peut-être une présence dans une boutique, ce que je disais tout à l'heure, hein, avec la boutique d'Antoine De Wild qui prône le Made in France. Est-ce qu'il y a des boutiques comme ça qui pourraient accueillir les t-shirts baumolés sur l'agglomération lyonnaise, mais peut-être sur l'ensemble de la France?
On est en réflexion et en discussion donc avec des partenaires là-dessus. Ce qu'on veut en tout cas, c'est de pouvoir rendre ces vêtements, en tout cas, les plus accessibles, le plus accessible au plus grand nombre, en tout cas, accessible au plus grand nombre, dans le sens où ce que l'étude avait révélé aussi, c'est que si les gens veulent mieux consommer, pour beaucoup, notamment sur les fringues de running, pour beaucoup, ils ne savent pas vers quelle marque se tourner ou trouver ces vêtements-là. En tout cas, pour se poser la question de dire, est-ce que je passe à l'action ou pas. Donc, ça peut avoir du sens, en tout cas, d'être présent dans ces points de vente. Après, forcément, il y a des réalités économiques. Les points de vente peuvent attendre des coefficients, des retours sur investissement. Nous, on est une petite marque, donc à voir si on peut trouver un intérêt commun. Là-dessus, rien n'est encore fait. En tout cas, il y a des discussions qui sont en cours, et j'espère en tout cas que ça pourra se faire, parce que ça peut avoir du sens, en tout cas.
Alors, si on devait retracer un petit peu là toute l'aventure baumolée depuis ta sortie d'études jusqu'à aujourd'hui, un point positif, vraiment un événement qui serait positif, ce serait lequel?
Je pense que c'est le moment où on a lancé en fait la campagne de précommande, parce que en fait chaque produit qu'on lance sera lancé, enfin chaque nouveau produit sera lancé en précommande pour valider qu'on répond bien à un besoin, et forcément Quand on part de zéro et qu'on a une communauté avec qui on a beaucoup discuté, mais pour qui derrière on n'a pas encore de garantie ou de vrai retour, entre guillemets, tu es toujours un peu dans l'expectative et tu ne sais pas vraiment à quoi t'en tenir. Et le moment où on a lancé cette campagne de financement participatif et qu'on a vu que les amis, mais également tous les coureurs avec qui on a pu discuter des heures et des heures, ont répondu présent, ça, en fait, ça nous a fait chaud au cœur dans le sens où on était ultra reconnaissants en fait, de voir que les gens s'étaient énormément investis dans la co-création de nos produits, mais ils ont aussi répondu présent au moment de la campagne de financement participatif parce que ça confirmait en tout cas que ce qu'on faisait avait du sens et je confirme, enfin, et je vais le répéter, mais avoir du sens aujourd'hui, je crois que c'est le truc qui nous tient le plus à cœur et ce qui fait en tout cas nous fait nous lever tous les matins et voilà, nous remet dans tous les sens pour essayer de donner tout ce qu'on a.
Et si tu croises alors un coureur avec un t-shirt beau mollet dans les rues lyonnaises, tu lui sautes dessus ou tu te dis non, finalement, voilà, je suis fier, la personne porte mon t-shirt et finalement, j'ai été jusqu'au bout de ce travail et de ce projet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croiser quelqu'un qui portait ton t-shirt?
Non, pas encore, puisque les livraisons ont été faites, alors au moment où en tout cas on tourne ce podcast, ont été faites en début de semaine. Donc forcément, on n'a pas encore eu l'honneur de croiser des Lyonnais, mais il y a du Lyonnais. Donc j'espère que ça arrivera. Et non, je pense qu'on le laissera finir son footing, mais par contre, on aura une belle sensation et un beau sentiment de satisfaction de voir en tout cas que des gens qu'on ne connaît pas peut-être portent ce t-shirt.
Alors, Flavien, à titre personnel, sur cette fin d'année 2021, qu'est-ce qui va être, on va dire, à ton calendrier? Est-ce qu'il y aura des courses? Est-ce que tu as le temps quand même de t'entraîner un petit peu malgré cet agenda de jeune entrepreneur vraiment passionné? Qu'est-ce qu'il y aura au programme avec la reprise des courses?
Écoute, sur les courses officielles, pour le moment, en tout cas, j'ai pris le dossard pour la Saint-Élion. Donc, ça va être un premier trail en plus de ça. Donc, ça va être une belle première expérience. Donc, c'est déjà en tout cas booké. À voir quelle course après je peux me rajouter entre deux. Sinon, je suis purement en ce moment, sur du loisir. Je me challenge tout seul, mais pas de séance de fraco. Enfin, non, je cours régulièrement, mais pour le moment, c'est juste pour que la tête aille bien et rester bien concentré sur tout ce qu'on a à faire en ce moment. La suite au prochain épisode pour les prochaines échéances.
Donc, prochaines échéances, peut-être les chaussettes. Alors après, il y aura d'autres produits peut-être pour venir étoffer la gamme, hein, ce que l'on évoquait tout à l'heure. Là, sur 2021, c'est de continuer à promouvoir cette marque, à vendre des t-shirts. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses en discussion?
Pour tout dire, il y a deux grands moments forts, a priori, pour cette fin d'année. Parce que forcément, voilà, on s'est lancé avec un t-shirt en janvier. Là, on a hâte, mais on a pas mal bossé sur déjà la co-création des trois prochains produits. L'idée, elle est en tout cas pour le mois de septembre, a priori, lancer une précommande avec un t-shirt, une autre version du t-shirt, en tout cas avec un autre usage, un short et une paire de chaussettes. Et d'ailleurs, enfin, vous avez la possibilité, selon quand le podcast sortira, mais de nous aiguiller sur ces produits-là. Et un projet, on va dire, secret, qui aurait lieu plutôt en fin d'année et sur lequel je me réserve le droit de ne rien dire tout en disant qu'il y a un projet.
Bon, eh ben on attendra la fin de l'année pour avoir ce projet secret. Sur quel réseau, sur quelle plateforme on peut retrouver toute ton actualité et celle de la marque naissante Beau Mollet?
Pour participer en tout cas au questionnaire et participer en tout cas à la co-création de nos produits, ça se passe sur notre site www.beaumollet.com et sinon sur les réseaux classiques, Facebook, Instagram, LinkedIn, et c'est déjà pas mal. Et Strava, on a un petit club pour celles et ceux qui veulent participer en tout cas au run et suivre l'actu Beau Mollet.
Bon, alors moi, je remettrai tous les liens et toutes ces notes donc dans l'épisode de façon à ce que les gens puissent venir co-créé donc ces t-shirts. Donc, je te remercie Flavien de cet échange et de la présentation de cette marque naissante Beaumolet, donc marque 100% française avec un bel accent éco-responsable. Donc, à l'heure où la société et la planète nous montrent un peu des signes de fatigue, bah là voilà, on a deux jeunes entrepreneurs français qui sont partis pour une belle aventure. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.
Bah écoute, merci infiniment Seb pour voilà, tes encouragements et ce temps de parole.
Eh bien écoute, moi je te souhaite une belle fin d'été et puis moi pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.